Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Cette semaine, l'exomie les fauteuils roulants, bienvenue dans Happy End de Michel Haneke. Et pendant qu'une famille se déchire dans les Hauts-de-France en 2016, en 2049, la chasse aux réplicants reprend dans la suite de Blade Runner imaginée par Denis Villeneuve. En fin d'émission, nous retrouverons Pierre pour un nouveau numéro du Cérivore, avant de nous retrouver pour les suggestions des vêtements culturels de la semaine. Mais très vite, commençons avec Happy End de Michel Haneke. La famille Laurent, issue de la haute bourgeoisie calaisienne, lave son linge sale au rythme des drames qui se succèdent. Ève, 13 ans, empoisonne sa mère en direct sur Periscope. Thomas, son père, trompe sa femme avec une adepte des Golden Shower. Le grand-père, interprété magistralement par Jean-Louis Trintignant, tente à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours, tandis que sa fille Anne, alias Isabelle Huppert, tente de maintenir à flot l'entreprise familiale, tout en empêchant son fils de sombrer dans l'alcoolisme. Un arbre généalogique qui plie, et qui semble perpétuellement sur le point de se rompre dans une ambiance délétère. Pour en parler, j'ai avec moi Thomas et Léa. Bonjour.
Bonjour.
Alors du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de Happy End ?
Eh ben moi, en fait, en sortant directement de la salle, j'ai trouvé ça assez mauvais. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé, ça m'a pas touché en fait en sortant. Puis en y réfléchissant, là, je l'ai vu il y a deux jours, c'était samedi soir. Et en y réfléchissant, en fait, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées et que finalement, le film arrive à être touchant à la fin. Même si, en fait, ça reste très froid, calculé, je pense que c'est la volonté du réalisateur et que ça marche, en fait, finalement.
D'accord. Voilà. Léa ?
Moi, je n'ai pas aimé ce film non plus. J'ai trouvé qu'il y avait certaines séquences qui le portaient vraiment et qui sont, il faut bien le dire, assez jubilatoires. C'est des moments où on a l'impression... que là, voilà, il y a enfin une petite faille qui s'ouvre, qu'on rentre dans le vif du sujet. On parlera peut-être de ces séquences. Enfin, voilà, c'est des moments où on nous dit brutalement, non, j'aime pas forcément les autres, ou non, j'ai pas forcément envie de continuer à vivre. Il y a un cynisme, quelque chose d'assez vrai, et c'est assez agréable. Mais alors, pourquoi toutes ces choses-là sont noyées dans une somme de menus faits de personnages dont on ne suit que très brièvement le chemin, et puis on s'arrête pour en suivre un autre. J'ai vraiment rien contre la mosaïque, mais en fait, là, on est perdu dans une somme de choses qui se retrouvent ravalées au rang d'anecdotes, et ça concerne tous les événements que tu citais, enfin, toutes les séquences que tu citais, et puis au niveau des migrants de Calais, j'ai trouvé ça quand même assez limite. Enfin, voilà, j'ai eu un peu l'impression de zapper entre tous ces épisodes, comme à la télé, ou de dérouler mon fil d'actualité Facebook. Et c'est encore plus renforcé par le fait que souvent, il fait commencer ses séquences de telle manière à ce qu'on ait deux ou trois secondes de déphasage où on ne sait plus du tout où on est, puis on commence à comprendre de quoi il retourne, et puis paf, on change de micro-récit. Donc, pourquoi pas faire un patchwork comme ça, qui nous laisserait... faire entrer en résonance chacun des morceaux. Mais là, les parties sont tellement hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont un tel potentiel d'intensité et dont on aimerait qu'elles soient un peu développées, et d'autres qui sont à côté si fades, en fait, qu'on a juste envie de garder les beaux morceaux et de les découper du film et de partir avec, quoi. Donc c'est un peu dommage.
Alors, moi, ce film, pourtant, je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur le cynisme. Je suis assez d'accord sur... toute cette espèce de froideur à laquelle se livre Haneke, mais il me semble que c'est quand même quelque chose qui caractérise son cinéma, qu'il regarde un petit peu ses personnages comme des rats de laboratoire, comme la petite au début quand elle fait une petite expérience sur son hamster dans sa cage. Eh bien, on a l'impression que c'est une scène assez programmatique, que Eve, donc 13 ans, va regarder le monde à travers son téléphone avec lequel elle filme, mais que finalement ça devient une espèce d'expérience à grande échelle sur cette espèce de famille, et que le réalisateur mène lui-même comme il avait fait dans Caché, par exemple, déjà à l'époque, il me semble. Enfin, après, c'est une distance qui, selon moi, est chirurgicale. pour une bonne raison, pour une bonne et simple raison, c'est que, et puis cette espèce de moment de déphasage, comme tu disais, il me semble que quand même il y a ces moments de déphasage, tout simplement parce qu'il a coupé tout ce qui pouvait être potentiellement mélodramatique. On ne voit pas Eve tenter de se suicider, on ne voit pas l'accident du grand-père en tant que tel, on ne voit pas tout ce qui pourrait avoir trait au mélodrame. Il n'y a pas de grande musique, pas de grands sentiments, on voit simplement les résultats, les conséquences concrètes sur cette famille. Il me semble que dès que ça aurait pu devenir touchant, il a coupé, il a directement amputé, enfin il a désamorcé tout ce qui pouvait être émotion, il me semble.
De manière à ce que... Enfin, je suis assez d'accord avec le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées et que du coup, ce sont un peu frustrants aussi. Je rejoins un peu ce que tu disais aussi au niveau des moments où on aimerait que ça explose un peu plus. Il y a des moments où on sent que c'est possible qu'il arrive quelque chose de beau et puis il le coupe et il l'empêche. Et il y a un moment, moi, je trouve qui est formidable et qui est très beau. Alors, je pense qu'il a pas réussi en fait à s'en débarrasser de ce moment-là. C'est la toute fin. Enfin, moi, je trouve la toute fin magnifique quand le grand-père est dans l'eau. Et encore, bon, elle est désamorcée par cette scène est désamorcée par le fait que la gamine le filme et donc ça redevient un peu malsain, voyeuriste et tout ça. Mais juste le grand-père dans l'eau qui, enfin, moi franchement, le rôle de Trintignant dans ce film-là est vraiment un coup de cœur parce que je trouve qu'il l'interprète magnifiquement bien de bout en bout. Il porte toute la névrose familiale qu'il y a dans cette famille et qui se répercute ensuite sur toutes les générations. Et des personnages du coup qui sont vraiment observés, épiés, et pour finalement et du coup dans des gestes assez anecdotiques, c'est vrai, mais qui font aussi ce qu'ils sont. Il me semble au niveau, enfin de, c'est-à-dire on a accès aux conversations du père avec son amante qui sont assez comment dire rock'n'roll. C'est vrai que sur le coup et moi ça m'a à des moments je me disais oui d'accord mais pourquoi, et en fait c'est juste une famille qui se construit et qui se délite en même temps en fait, et je trouve qu'à ce niveau-là il y est bien arrivé. Après, ce que j'ai reproché au film en sortant, c'est que il faisait passer ça par des moyens très froids, très chirurgicaux, sans aucune beauté dedans. Et du coup, on ressentait pas tant qu'on comprenait les choses, en fait. On les comprend par rapport à ce qui se fait, à ce qui se met en place. Et puis après, en y réfléchissant, la dernière chose que je me suis dit sur le film, c'est que je pense qu'il voulait faire ressentir des choses. Bon, c'est très bizarre, mais je pense qu'il voulait faire ressentir des choses par le fait, justement, d'empêcher qu'on ressente des choses. Et que dans la compression des moments où on peut rien ressentir, qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et que la fin du film, ce soit totalement ça. C'est juste le grand-père dans l'eau qui cherche quelqu'un pour le tuer depuis le début. Et qui, finalement, le trouve dans la personne de Eve. Et même, il se débrouille. Parce que Eve le laisse, et c'est lui qui défait les roues, je crois. Hein. C'est ça. Hein. Et Eve le tue pas, finalement, et c'est lui qui le fait. Et je sais pas, moi, il y a quelque chose que je trouve de très beau dans cette scène.
Mais il y a un véritable refus de la beauté, du mélo et des grands sentiments surtout. Parce que même quand le fils amène les migrants au mariage, tu fais des références à cette scène, on comprend qu'on amène une forme de hors-champ de cette société, cette haute bourgeoisie et tout ça, dans le champ. Mais pourtant, c'est pas filmé comme une espèce de grande action, de grands moments militants, etc. Enfin, moi, ce que j'ai assez aimé, c'est cette espèce de distance assez froide en même temps, même si sur le coup c'est pas ce qui va toucher, mais c'est une distance, c'est peut-être un peu bête ce que je veux dire, mais une distance critique véritablement, mais en même temps tout en étant une espèce de comment dire, d'image de cette prison dans laquelle ils sont tous contraints, comme le hamster au début qui est traduit notamment par le cadre qui enferme beaucoup les personnages, qui les saisit toujours dans, qui semble toujours les contraindre presque physiquement. On peut peut-être parler du jeu des acteurs, oui, parce que tu parlais de Trintignant.
Oui, alors Trintignant est formidable, mais je pense que c'est le seul, en fait, c'est le seul qui est formidable parce qu'il n'a pas suivi la direction d'acteur de Haneke, en fait. Parce que la direction d'acteur est vraiment, je trouve, restrictive. Et même si elle rentre totalement dans le processus artistique de regarder les personnages comme des bêtes de laboratoire et les disséquer, tout ça, on reste dans quelque chose quand même de très neutre et quelque chose qui nous donne pas du tout envie de les rencontrer, en fait. Et je trouve que c'est ça le problème majeur du film, en fait, même si je l'ai bien aimé, c'est que je l'ai aimé juste parce que j'ai fait un effort dessus intellectuel pour l'aimer. C'est-à-dire qu'en sortant de la salle, je me suis pas dit ah oui, il a réussi à me faire passer des choses. Non, quand je suis sorti, je me suis dit, mais il m'a rien dit du tout, en fait, cette Haneke. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais.
Alors, la jeune fille qui joue Eve, je la trouve assez saisissante.
Alors, oui, pour le coup. Mais elle est. Ouais. Si, la gamine est bien, mais je trouve qu'elle est. C'est pareil, elle est parasitée, je trouve, par une direction d'acteur et une écriture des dialogues qui leur font dire des choses. Quand elle parle à son père, quand elle lui dit, c'est OK, c'est ok, avec le même ton à chaque fois. Alors oui, ça en fait une machine froide et calculatrice.
C'est assez réel quand même.
Ouais, mais ouais, je sais pas moi. Oui, parce en fait, je me rends compte quand tu me le dis, je suis d'accord avec toi.
Mais il me semble aussi que, enfin, parce que tu dis oui, on n'a pas envie de les rencontrer, mais je pense que le but c'est qu'on n'ait pas envie de les rencontrer. Enfin, il y a beaucoup de moments qui sont filmés à distance, on n'entend même pas ce qu'ils disent. Il y a un refus de l'empathie, aussi bien sonore que physique. Que...
Oui, mais ce que je voulais dire quand je disais qu'on n'a pas envie de les, mais ce que je voulais dire quand je disais qu'on n'a pas envie de les rencontrer, c'est qu'on, je me suis mal exprimé. Je veux dire, on n'a pas envie de les suivre dans un film, en fait. Je me suis mal exprimé. Le mot rencontrer n'était pas juste, mais c'est qu'on n'a pas envie d'aller. Ouais, j'ai pas envie d'aller les suivre parce que mine de rien, ils me donnent rien. Enfin, Trintignant, moi, me donne quelque chose et je le trouve, je le redis, exceptionnel. Mais, ouais, le fils d'Isabelle Huppert, enfin de Anne... Bon, après, c'est compliqué parce que c'est un comédien étranger qui est redoublé par-dessus, mais le doublage est vraiment pas top. Mais après, je peux comprendre que ce soit je peux comprendre que ce soit dans la volonté du film de faire comme ça, mais si c'est
ça
dans la volonté...
Ça fait une vraie gêne, je trouve.
Oui, ça fait une vraie gêne, mais bon.
Mais après, c'est peut-être une écriture du malaise, comme on peut trouver chez, par exemple, Alain René, dans Muriel, ou ce genre de choses, ce genre de famille, justement, qui nous porte à un point où, d'intense...
Il y a ça, mais il y a aussi des défauts dans le jeu des acteurs, je pense, ouais, à certains moments, peut-être. Quand même.
Enfin, un film, en tout cas, on se retrouve sur les termes de malaise, sur les termes de froideur et de gestes artistiques qui refusent tout ce qui est mélodramatique.
1h50, très agréable.
Passons maintenant au sujet qui fâche. J'ai nommé Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. 30 ans après les événements du Blade Runner original, l'agent K, incarné par Ryan Gosling, fait une découverte qui fait vaciller l'ordre établi de cette société fondée sur la séparation entre humains et réplicants. Une mystérieuse réplicante aurait accouché d'un enfant. Et attention, spoiler alerte, la mère n'est autre que Rachel, la réplicante femme fatale du premier opus. Et le père, je vous le donne en mille, n'est autre que, attention, tenez-vous bien, Rick Deckard, a.k.a. Harrison Ford. L'existence de cet enfant, qualifiée de miracle par plusieurs réplicants, leur donne des envies de révolte. Elle effraie aussi les autorités et attise la convoitise de l'entreprise Wallace. Le temps que vous vous remettiez, chers auditeurs, de la surprise provoquée par ce nœud dramatique totalement inattendu, coucou Kylo Ren, je vais... maintenant demander à Pierre, Thomas et Léa leur avis sur ce film. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Occitane.
Alors, du coup
C'est-à-dire que moi je me suis un peu ennuyé pendant 2h44 de film. Il y avait beaucoup de dialogues. Et puis je ne... je vais arrêter de parler comme ça. C'est surtout qu'en fait j'avais... Bon, je vais le comparer au 1, ce qui est peut-être pas une bonne idée, mais quand on va voir une suite, moi personnellement, quand je vais voir une suite, j'attends à retrouver des éléments qui m'ont plu, des éléments de fond ou de autour du film qui m'ont plu dans le premier, et j'ai vraiment pas retrouvé des choses qui m'ont plu dans le 2 en fait. Il m'a manqué les plans sur Los Angeles en 2019 avec le petit air de saxophone et la pluie. Moi, il m'a manqué tous ces plans-là et tous ces plans trop larges avec juste des petites touches de lumière, alors que le premier plan du premier était quand même somptueux. Ça m'a manqué. Moi, il y a beaucoup de choses. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué par rapport au premier, dans le deuxième. Enfin, dans le deuxième. On dit le deuxième, mais c'est 2049.
Ouais, on
ne dit pas le deuxième. Voilà. C'est... Voilà. Voilà.
On retrouve quand même un peu l'esthétique du premier, l'atmosphère un peu électrique, sale. Puis il y a ce truc que j'aime bien, c'est un mélange de choses qui sont censées être futuristes, mais qui ont en fait déjà vieilli. Enfin, c'est tout le courant du cyberpunk, des trucs comme ça. L'esthétique, moi, m'a beaucoup plu. Ça colle exactement en plus avec la musique de Frank Zimmer. Enfin, ça va très bien ensemble. Bon, tout le reste, j'ai pas du tout aimé, mais l'esthétique, j'ai beaucoup aimé l'esthétique du film.
Ouais, moi, l'esthétique, c'est ce qui me dérange le moins, mais on va écouter l'avis de Pierre.
Fuck you, Michael Green. Voilà, c'est le commentaire principal. Je suis un énorme fan du premier film. L'esthétique, franchement, est plutôt cool, même si elle n'a rien à voir avec le premier. Il y a quelques éléments qu'on retrouve du premier. Du coup, le fanboy en moi s'est excité à la vue de pas mal de choses, notamment la réutilisation de l'audio du premier film. Je trouvais assez cool. Le premier plan aussi, qui est assez rigolo. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il fout là. Il me semble, voilà, la pupille, ça rappelle le premier plan du premier, mais ça rapporte strictement rien, sauf ça. Et sinon, en fait, le scénario est à chier. Mais vraiment, genre, ils ont pris un scénariste de série hollywoodien pour faire quand même un film qui est tiré non seulement d'un des piliers de la littérature de science-fiction des années 70, puis un film noir excellentissime, et après ils ont totalement massacré le truc en faisant une espèce de film soit trop court, soit trop long, qui tente plein de trucs, qui les oublie. Et tout ça, franchement, ça m'a énervé, parce qu'en sortant, je me suis dit « Waouh, quelle claque !» Après, j'ai réfléchi 2 secondes, et je me suis rendu compte que le scénario était pourri. Le twist, je l'avais compris dès les 15 premières minutes. Le contre-twist, je l'avais compris dès les 30 premières minutes. Franchement, c'était insupportable. Et le seul problème, c'est qu'un film, de mon point de vue en tout cas, 60%, c'est quand même le scénario. On vient voir une histoire, faut qu'il y ait quelque chose, faut que ça s'assemble, faut pas juste que ce soit un ensemble de plans, surtout quand on va voir de la SF, donc un film de genre. Et du coup, le scénario étant totalement nul... Je sais pas, je suis extrêmement mitigé. Je pense qu'il aurait juste fallu virer le scénariste et reprendre l'original.
Bon, alors je salue Madame Amerly, ma prof de cinéma de prépa, qui serait morte en entendant que 60% d'un film c'était le scénario, mais passons. Donc oui, d'un point de vue narratif, il me semble que les twists successifs ne fonctionnent pas, que la musique est ultra poussive, excepté peut-être les moments où Vangelis, on va dire. Mais sinon, oui, elle est ultra poussive. Enfin, le moment où il y a...
Tous les moments où ça fait...
c'est du bruit. Ça marche. Ça marche très bien. Ça fait un super effet, mais c'est du bruit.
Quelqu'un tape dans une canette.
Mais en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir vu un très long clip, quoi.
Oui, c'est ça. C'est
vrai.
Et puis, la musique essaie de te forcer l'émotion, je trouve. Enfin, au moment, par exemple, où il trouve le cheval de bois, bon, on a compris depuis 3 heures qu'il allait trouver ce putain de cheval de bois, mais il y a la musique qui crie pour te dire mais si, et un frisson, mais on n'aura jamais ce frisson, il me semble, et c'est selon moi une maigre compensation de l'absence de jeu de Ryan Gosling, parce qu'il faut qu'on en parle de ça aussi.
Non, franchement, ça marche super bien.
Oh non, il a le regard d'un bœuf quand il apprend qu'Harrison Ford est son père.
Sérieux, suffit de relanche. Hein.
Harrison Ford, il a le sourire de côté qui rattrape tout le reste.
Alors, Harrison, franchement, non, j'avoue, c'est ce que je me suis dit en voyant le premier. Je me suis dit, en fait, Harrison Ford, c'est le film de trop que je crois que j'ai vu avec Harrison Ford, le premier Blade Runner, parce que je me suis dit qu'il avait vraiment peu de jeu. Mais dans Blade Runner, faut avouer quand même qu'il en a. Un peu plus que dans le simple Indiana Jones ou enfin
oui,
simple Indiana Jones en tant que grosse guillemets.
Mais reste un androïde en fait.
Enfin, pendant tout le film, on essaie de t'apprendre que la tension entre réplicant et humain est pas si compliquée et que tout tient à comment dire un ovaire fécondé finalement. Oui. Et que du coup, c'est plus qu'un androïde de toute façon.
Sauf que tous les êtres humains qu'on voit dans ce film, c'est des robots. Ils ont tous, ils sont totalement plats. Ils ont tous un objectif en tête.
Ils
parlent comme
tous mieux que Ryan Gosling quand même.
Franchement, surtout je trouve que ça marche bien, ça me rappelait Drive, et en fait, dans le contexte du film, ça marche vachement bien ce genre de jeu.
Disons que c'est le seul jeu qu'on peut lui accorder à cet acteur, il me semble. Enfin, c'est-à-dire un joli film qui essaye de soutenir une absence... Enfin, en fait, Ryan Gosling, pour moi, c'est comme une espèce de toile, et une toile sur laquelle on peut projeter des lumières, du son, des beaux effets de néon, et puis il est là pour soutenir le tout et se balader dans la ville...
Et peut-être même plus qu'un problème de jeu, c'est peut-être un problème de construction des personnages. Enfin, ils sont tous plus clichés les uns que les autres. C'est l'horreur, quoi. Entre le gentil flic qui fait son devoir, mais qui quand même a une conscience morale quand il faut tuer des gens qui ont des âmes, et la réplicante qui est censée être super froide, mais qui en fait est méga libidineuse. Enfin, c'est presque une parodie, quoi.
Elle l'embrasse à la fin.
Mais si, elle l'embrasse.
C'est vrai. Ah ouais, elle le tue, elle l'embrasse Spoil. Sans aucune raison.
Mais si, elle le désire de. Enfin, si.
Moi, je trouve qu'il y a.
Moi, j'ai pas senti le désir tout le long du film, quand même.
Ah oui, non, parce que. Senti, bon, c'est un robot, il tente des trucs, et puis voilà, quoi.
Mais c'est ça le problème de ce film, c'est que. Enfin, je veux dire, traduire répliquant par robot, c'est un problème fondamental, enfin, qui me paraît assez insoluble. Enfin, c'est-à-dire que les réplicants ne sont pas des robots, c'est quand même des êtres. Des espèces, c'est à la lisière entre le clone et le robot, je trouve ça un peu facile d'en faire des espèces d'automates à la Westworld.
Sauf que justement, en fait, le principe, c'est vraiment de... Le premier Blade Runner exprime le fait que les réplicants sont des robots. Et du coup, ça marche parfaitement dans la digeste du film. On comprend très bien, quand ils tirent sur un robot, d'accord, il y a du sang qui gicle, mais après, on s'attend à ce qu'il voit que c'est un robot d'une manière ou d'une autre, ça reste un robot avec la force surhumaine, etc. Dans le nouveau, avec toutes ces questions génétiques, etc., tout de suite, en fait, on perd cette limite, et du coup, ça rajoute à tout ce côté vraiment bizarre, en fait, où, dès le début, bah, en fait, on comprend pas trop pourquoi les réplicants ont une force surhumaine si, en soi, c'est juste des humains.
Enfin, moi, je trouve le côté robot, je suis pas tout à fait d'accord. Dans le premier, enfin, il y a toute cette scène quand ils vont chez celui qui fabrique les yeux et qui font chplouk chplouk avec les yeux, qui te font bien sentir que c'est un truc... Bien biologique, bien...
C'est un androïde, c'est un cyborg. C'est, d'accord, c'est pas un robot, mais quand même, il reste ce côté où on s'attend à ce qu'il y ait au moins quelque chose de mécanique. Je sais pas, par exemple, un squelette métallique, c'est un truc de base qu'on pourrait se dire dans le premier. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont super forts, qu'ils arrivent à traverser les murs et tout. Alors que là, on se rend compte qu'ils ont un squelette normal, et pourtant, quand on les explose contre un mur, c'est le mur qui casse avant eux.
Non mais de toute façon, bon, y a déjà ce problème-là, mais je trouve qu'aussi, au-delà de ça, on parlait donc de cette affaire de génétique, et il me semble qu'il y a toute une rhétorique ultra-catho dans ce film, en fait.
Ah bon ?
Enfin...
Où ça ?
Bah, dans cet enfant, qui à la Moïse, qu'on va paumer dans l'empire, enfin, à l'intérieur de l'Empire des Méchants, pour qu'ensuite ils reviennent, tel un miracle, comme ça, et pour mener la révolution, enfin, je sais pas, moi ça m'a paru... La révolution, elle marche que par le miracle, parce qu'à chaque fois, tous les réplicants disent « Oui, t'as pas vu un miracle, alors ça marche pas, t'as pas la foi, donc il faut que t'aies la foi. » Alors que dans le premier, je trouve qu'il y avait plus la constitution d'une conscience de classe, enfin, ce qu'on pourrait appeler une forme de conscience de classe, enfin, la conscience d'être oui, on est peut-être pas des humains comme les autres, mais on a peut-être le droit d'exister nous aussi et de vivre, etc. Enfin, il me semble que ça se faisait pas par le biais nécessairement de la foi d'un miracle et d'un enfant.
Mmh. Oui, c'était plus la... Oui, non, le premier, c'était vraiment des robots, enfin des personnes qui grandissent en apprenant ce que c'est que la mort, en découvrant la mort et en essayant de, en quelque sorte, l'apprivoiser, la comprendre. Et c'est sûr que là, dans le nouveau, on essaye de mettre en avant le côté « Oui, mais maintenant qu'on a déjà vu que les réplicants, ils savent ce que c'est que la mort, maintenant, on va essayer de réfléchir à ce que c'est que la naissance. » Et du coup, ça fait vraiment, c'est totalement plat. Et juste très vite, pour revenir à cette révolte-là, franchement, la révolution des robots, quoi. Non, mais sérieux, c'est dans le carton d'introduction et ils nous le servent en seulement deux scènes en plein milieu du film, et ça fait... Je suis persuadé que le scénariste n'a vu qu'un seul film de science-fiction de toute sa vie, c'était le premier Blade Runner, et il s'est dit « Oh, attendez les gars, j'ai une idée super géniale », et il a sorti tous les clichés de la science-fiction d'un coup.
Et puis ils arrivent à 10, là, dans leur cave inondée du Lincoln Memorial, sous les gros piliers, là, ils sont 10, et ils vont faire « Oui, on va faire la révolution, vous allez voir, les humains n'ont qu'à bien se tenir ».
Et puis bon, est-ce qu'on parle ou pas de l'intelligence artificielle qui sert de petite femme à...
Ah, c'était cool ça franchement.
Ça, c'était pas mal.
Alors, c'était des moments intéressants, moi, j'aime bien.
Les moments les plus intéressants sur la question du transhumanisme, etc.
Peut-être. Je trouve que techniquement, c'est très beau. Que théoriquement, c'est très intéressant. Mais quand même, j'ai un problème avec le moment où elle se synchronise avec la prostituée.
C'est joli.
Je veux être réelle pour toi. Moi, je trouve ça
glauque. Je trouvais belle cette scène.
C'est génial. Et puis, éthiquement, ça me pose un gros problème d'objectification, etc.
C'est ça qui est intéressant, justement.
Oui, mais c'est filmé, tout est filmé comme si c'était une belle scène d'amour d'un beau film d'amour. C'est avec de la musique, avec un truc poétique et tout
non,
ça.
Je suis pas d'accord.
Enfin, moi, je l'ai ressenti.
Le glauque des relations sexuelles entre robots et autre chose qu'on voit dans le premier, par exemple.
Ouais, mais bon, elle est filmée.
Dans le premier, c'est ça. Enfin, ouais, c'est vrai que la première scène de sexe dans le premier film, entre Descartes et Rachel, ouais, elle était violente. Descartes lui demande de parler.
Oui, mais bon, à la fin, ils s'aiment et ils partent ensemble. Et là, elle est montée exactement de la même manière, c'est-à-dire avec un insert sur un panneau publicitaire. Enfin, moi, je sais pas, elle m'a posé problème, cette scène, en tout cas, techniquement et théoriquement. Enfin, je veux dire, pour toutes les histoires du corps au cinéma, du cadre, du plan, tout ça, c'est passionnant. Mais il me semble quand même qu'il y a un problème éthique, qu'il y a un petit côté science sans conscience, quoi. Enfin.
Mais je la trouve pas filmée comme une scène d'amour ordinaire. On voit que c'est quelque chose de, enfin, inouï, bizarre, enfin, nouveau qui se passe et. Ouais, non, je la classifierais pas comme ça.
Peut-être que c'est moi qui l'ai perçue comme ça, mais en tout cas, ça m'a un petit peu dérangée. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une mise en scène qui paraît assez difficilement tenable. Bon, un scénario paraît.
Hyper alambiqué.
Je me suis tellement fait chier qu'en fait, si on additionne les trois chiffres de son truc, si on additionne les trois chiffres, c'est-à-dire 6, 7 et 3, ça fait 16. 16, c'est la 16e lettre de l'alphabet, ça fait P. Donc ça fait K, D, P, K, Dick, Philippe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Une bonne raison d'aller voir ce film, un petit exercice de numérologie.
Mais
il me semble que, en fait, tout ce film est comme la scène d'ouverture, c'est-à-dire, c'est un plan aérien qui se déroule comme ça sur un paysage, un œil, comme dans le premier, mais sauf que toutes les couleurs ont disparu. dans, c'est quasiment les deux mêmes scènes d'ouverture, et il me semble qu'en fait c'est ça que je dirais sur ce film, c'est-à-dire que c'est un Blade Runner totalement décoloré, quoi, et un peu fade. Et maintenant, on retrouve Pierre pour un nouvel épisode du Cerivorb.
I'm sorry, are you addressing me? Because your authority is not recognized in Fort Kickass.
You've just crossed over into the Twilight Zone.
Where is Jessica Hoyle?
Jim. James. Timothy.
This is the warship Rocinante.
I'm Ron Swanson.
In the 90s, I was in a very famous team.
Eh bien, bonjour à tous, bonjour à tous les Cerivores. Cette fois-ci, on s'attaque à la série GLOW, autrement dit G-L-O-W. Et j'ai oublié l'acronyme que ça représente, mais je vous invite à aller voir sur Wikipédia ce que ça représente, puisque en fait, c'est l'acronyme d'une véritable série qui existait dans les années 80, mais je vous en parle un peu plus tout à l'heure. Alors tout d'abord, GLOW, celle dont je vais vous parler cette fois-ci, est une série qui a été produite par Netflix et créée par Liz Flahive, je ne sais pas comment ça se prononce, et Carly Mensch. Et elle date de juin 2017. Elle est composée de 10 épisodes d'environ 30 minutes chacun, allant de 25 à 35 minutes en fonction des épisodes. Alors, cette série regroupe 3 acteurs assez connus, notamment Marc Maron, qui est un humoriste habitué du monde de la télévision, pour jouer Sam Sylvia. Il y a aussi la merveilleuse, la splendide, l'incroyable Alison Brie, dont j'ai déjà parlé dans plein d'épisodes précédents du Cerivore, puisqu'elle a fait notamment Community, mais aussi Mad Men, et aussi BoJack Horseman, etc., qui joue cette fois-ci Ruth Wilder, et enfin Betty Gilpin, qui est une habituée cette fois-ci des petits rôles dans les séries, mais qui est vraiment visible dans cette série-là et qui est très intéressante dans l'autre personnage central qui est Debbie Egan. Alors, le principe de cette série, c'est que c'est une série de fiction, mais qui se concentre sur quelque chose qui a vraiment été fait, c'est-à-dire GLOW, comme je vous l'avais dit précédemment, qui est en fait une émission de catch féminin, des années 80, qui a commencé en 1985 pour être précis, et qui était la première fois qu'on voyait des femmes faire du catch, notamment à la télévision américaine. Alors, l'histoire est très simple, hein. Richie, Fifi, ça, sa maman, veut créer sa propre émission, et il décide d'en faire du catch avec des meufs, parce que ça vend bien. Et du coup, il recrute un réalisateur de films érotico-gore alternatif anti-système, Sam Sylvia, joué donc par Mac Maron, qui du coup lance des auditions, à laquelle participe Ruth Wilder, une method actress féministe qui n'a jamais de rôle, puisque bon, il faut dire que le monde du cinéma des années 80 ne correspond pas forcément à une vision très féministe et féminine du cinéma, bien sûr. Et du coup, Ruth Wilder se retrouve embarquée dans le monde du catch, découvrant petit à petit qu'en fait, elle peut s'y faire sa propre place, créer son propre personnage et agir pour de vrai, notamment par le combat. Alors, du coup, il y a une autre histoire qui se rajoute à ça, c'est sa meilleure amie d'enfance, je ne sais plus trop, du coup, Debbie Egan, qui se retrouve embarquée, elle aussi, dans le monde du catch, mais cette fois-ci à cause d'une histoire de cœur. En effet, Ruth, sa meilleure amie donc, a couché avec son mari. Alors, pour parler plutôt cette fois des caractéristiques techniques de cette série, alors voilà, bah, c'est une série Netflix, hein, y a le moyen, la réalisation est nickel, mais sans plus, il n'y a pas d'ajout spécifique qui fait que cette série vaudrait la peine d'un point de vue vraiment artistique de la voir. Mais en même temps, il y a une vraie histoire qui se forme avec plusieurs arcs narratifs qui s'entremêlent, etc., qui progressent. Et il y a une véritable profondeur pour les personnages. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez remarquable. Il y a quand même une douzaine de personnages et on s'y accroche à tous. Ils forment un groupe commun, un ensemble qui est vraiment très intéressant. Et aussi, on se plaît beaucoup à voir les combats de catch, à voir toutes ces histoires se dérouler. C'est très rigolo, notamment au niveau des commentaires sociaux. Par exemple, lorsqu'ils doivent assister à un gala pour récupérer des fonds auprès de la classe riche WASP américaine, alors que ce sont des femmes qui font du catch à la télévision et du coup qui se font passer pour des anciennes droguées issues des minorités américaines et qui disent que le catch leur a permis d'éviter la drogue. Et tout de suite, eh bien, les Wasps sortent leur chéquier en disant « Ah, c'est cool, ça permet d'éviter d'avoir de la drogue dans nos rues ». Bref, c'est un des exemples, il y en a beaucoup d'autres, c'est très intéressant, ça joue vraiment sur ce côté années 80. Et aussi, dernier petit truc en fait, qui est assez important de savoir, c'est qu'il n'y a pas eu de cascadeur. En fait, les actrices qui jouent cette série ont véritablement fait les matchs, ont véritablement fait les cascades de catch, etc. Elles se sont entraînées pendant des mois, et même que les productrices, les showrunners, ont avoué que les actrices ont dû faire semblant de ne pas savoir faire du catch, puisque leur niveau était nettement plus élevé par rapport aux personnages qu'elles jouaient, c'est-à-dire des totales néophytes. Et du coup, ça donne encore plus de véracité à toute cette série qui est vraiment excellente. Voilà, je la recommande encore une fois, preuve que Netflix fait bien les choses. Il y a même une deuxième saison qui a été annoncée et vous pouvez suivre notamment l'entraînement de Alison Brie. Non, non, je ne suis pas un fanboy lubrique ou quoi que ce soit. Je suis juste son Instagram, promis, et j'attends avec impatience les nouvelles de la saison 2. Voilà.
Et maintenant, surprise ! En effet, nous l'avions promis sur notre page Facebook, nous accueillons une deuxième chronique tout droit venue d'Angleterre. C'est donc parti pour Toute Toile Dehors.
Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Bonjour à tous pour ce premier numéro de Toute Toile Dehors qui vous fait part du meilleur de la programmation cinéma outre-Manche. Dans les salles obscures londoniennes cette semaine, une fable hongroise, pour le moins étrange, intitulée « On Body and Soul ».
Endre vagyok, a gazdasági igazgató.
Rácz Mária, minőség ellenőr.
Balit akar fogni, doktornő?
Mondd, lacikám, nincs valami rendesebb, arcveszebb?
De nem.
Le film nous raconte l'histoire de Maria et André qui travaillent tous deux dans un abattoir, l'une en tant que responsable du contrôle qualité, l'autre en tant que directeur financier. À l'occasion d'une enquête psychologique sur l'ensemble du personnel, les deux collègues se rendent compte, sans en avoir discuté auparavant, qu'ils se retrouvent chaque nuit dans leurs rêves respectifs, sous la forme d'un cerf et d'une biche qui font connaissance dans une forêt enneigée. Tout commence avec quelques plans majestueux qui nous donnent à voir, sur fond de neige et de vent hivernal, un magnifique cerf et une biche évoluer au cœur d'une forêt. Mais bien vite, la quiétude de cette première scène fait place, ni plus ni moins, à l'abattage d'un bœuf, puis à sa découpe méticuleuse en morceaux de viande. Âme sensible s'abstenir. Le monde de l'abattoir est filmé de façon mathématique. Les plans sont serrés. La photographie clinique. C'est sur cette première dissonance que s'élabore alors la rencontre qui guidera le film entre Maria et André. Maria est une jeune femme frêle et introvertie, au comportement autistique. Elle contrôle la marchandise d'un œil intransigeant, ne parle à personne dans l'usine. Les plans qui la concernent font part d'un véritable puritanisme de l'image. Des valeurs presque macrométriques nous montrent une main qui fixe une pince à linge sur un étendoir, ou encore ses sandales qu'elle quitte précautionneusement le soir lorsqu'elle se couche. L'absence caractéristique de musique renforce l'atmosphère d'un monde qui se refuse à la sensation. André, dont le bras gauche est paralysé, est quant à lui réservé mais sociable malgré tout. C'est à l'occasion du vol d'un médicament au sein de l'usine qu'une psychiatre interroge l'ensemble du personnel afin de trouver le coupable du larcin. On apprend alors que Maria et André se retrouvent tous les soirs en rêve, sous la forme d'un cerf et d'une biche, sans que les protagonistes ne sachent qui est l'autre animal. Si les deux personnages sont d'abord incrédules, le film fait place à une tentative touchante des deux êtres de comprendre ce qui leur arrive. Ils se retrouvent avec bonheur chaque soir dans leurs rêves, se prêtent même au jeu de s'endormir en même temps. Les scènes oniriques ponctuent les scènes de la vraie vie, où les personnages font face à la difficulté de leur personnalité propre, émoussée par le monde de l'abattoir. Ces tranches de vie, si j'ose dire, ne manquent cependant pas d'humour. On y voit Maria se rendre par exemple chez un disquaire et demander à écouter une dizaine de CD à la suite, dans une quête éperdue de la sensation. Ses traits montrent une placidité désarmante alors que du heavy metal lui écorche les oreilles. Toute la tension du film se joue donc autour d'un apprivoisement mutuel des deux êtres, déchirés entre la plénitude de leur relation onirique et le carcan de leur corps dans lequel ils ne parviennent pas à vivre leurs sentiments. Leur capacité à sentir, voire à ressentir, est engourdie et le film propose un véritable retour à la sensation pour arriver enfin au sentiment incarné.
Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save.
Nous ne dévoilons pas les détails du parcours des personnages pour nos auditeurs qui se précipiteront, nous le savons, en salle le 25 octobre. C'est tout pour ce premier numéro de Toute Toile Dehors. On vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux coups de cœur sur les toiles outre-Manche.
I'm broke, please send for me.
Maintenant, passons aux sorties de la semaine. Dimanche matin, en avant-première au Comédia, à 11h15, The Square, la palme d'or du Festival de Cannes. Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conservateur, apprécié d'un musée d'art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée The Square, autour d'une installation incitant les visiteurs à l'altruisme en leur rappelant leurs devoirs à l'égard de leurs prochains. Mardi 17 octobre, projection Été indien par l'association Les Météorites à la piscine du Rhône en plein air de Lupino de Farinacci, qui est un film qui parle de l'histoire d'Anthony, Orsou, Pierre et Marie, qui sont des jeunes du quartier de Lupino en Corse. Ils ont grandi ici, dans les HLM, entre la Nationale et les collines. Quand l'été arrive, ils se retrouvent au pied des immeubles. Sur les bancs et les parkings, en bord de mer, ils passent ensemble leur journée à la recherche d'un peu d'ombre, de compagnie, d'un moyen de s'évader. Deuxième partie de soirée, retourne à Genoa City, de Benoît Grimalt. Ce film est donc l'histoire de Mémé et son frère qui regardent le même feuilleton américain tous les jours à la même heure depuis 1989. 20 ans après mon départ de Nice, je reviens les voir pour qu'ils me racontent les 3527 épisodes que j'ai manqués, raconte Benoît Grimalt. Et puis bien sûr, restez connectés sur notre page Facebook pour de plus amples informations sur notre couverture du festival Lumière. D'étoiles plein les yeux, c'est fini pour cette semaine. Je remercie les chroniqueurs Thomas, Léa et Pierre, ainsi que à la régie Rémi et Félix.